9h26 minutes. Un peu plus tôt ce matin, je vous parlais de ce jugement qui a été rendu en Cour supérieure et qui venait renverser un jugement de la Chambre de la jeunesse où un enfant qui avait été battu, des mauvais traitements dès sa naissance, qui avait été placé donc dans une famille d'accueil. Une juge de première instance disait « Oui, mais malgré ça, il faut quand même s'assurer que l'enfant garde des contacts avec ses parents biologiques, des rencontres encadrées. » Et sans aller dans tous les détails, tu dis « Mais pourquoi garder des liens? » On peut comprendre pendant un certain temps. Là, tout le monde peut avoir un moment, disons, triste dans sa vie, un moment de dépendance. Mais donc, de dire à quelqu'un qui a battu un enfant qui avait 2 jours, jusqu'à l'âge adulte, on va permettre un certain nombre de rencontres là, sur une fréquence établie. Et la Cour supérieure a dit non, parce que ce n'était pas dans l'intérêt de l'enfant. Et souvent, je vous le dis, puis chaque cas est unique, mais quand même, est-ce que quand on prend des décisions, c'est en fonction de l'intérêt de l'enfant ou de l'intérêt des parents à qui on étire les droits? On avait des chiffres cette semaine, vous avez vu, les enfants déplacés à plusieurs reprises, 5 fois, 10 fois, 15 fois. Puis ça se résume à un problème de base qui est l'attachement. C'est qui l'adulte qui est responsable dans la vie d'un enfant? Quelle personne d'autorité cet enfant-là regarde? Quand tu commences à le promener entre les adultes, est-ce que c'est une bonne affaire? On poursuit un peu dans cette lancée avec Sophie, c'est un nom fictif, vous comprendrez, qui est mère monoparentale, qui est devenue famille d'accueil permanente pour la DPJ en 2016. Elle a accueilli un enfant de 20 mois qu'elle a finalement adopté 2 ans plus tard, c'est-à-dire à la fin de 2018. Sophie, bonjour.
Bonjour, Monsieur Arcan.
Parlez-moi d'abord de votre enfant. Il avait 20 mois quand vous l'avez eu. Il est arrivé chez vous dans quel contexte, dans quelles conditions?
C'était triste à voir. Puis on dirait qu'on est tellement en mode solution, on veut aider l'enfant, qu'on se rend pas compte à quel point ça n'a pas de sens, dans quel état il arrive. Premièrement, il parlait à peine, il avait 20 mois. Le seul son qu'il faisait, c'était « hein ». Quand on lui faisait un compliment, ses yeux révulsaient à l'envers, on voyait juste du blanc. Il manquait beaucoup de cheveux et il marchait à peine. Il manquait beaucoup d'équilibre. Avec le temps qu'on s'aperçoit d'où ça vient tout ça, donc l'équilibre, j'ai compris au fil du temps, c'est qu'il était maintenu en permanence dans un parc. Donc, lui était habitué de marcher en se tenant après un parc. Les cheveux, c'est parce qu'il y avait la gale depuis des mois, puis il n'y a personne qui y voyait. Donc, la nuit, quand justement les acariens s'accaparaient de sa peau, ben il n'était pas capable de parler, pas capable de faire comprendre ce qui se passait. Ben il s'en arrachait les cheveux. Et cet enfant-là était 4 mois en famille d'accueil temporaire. Il n'y a personne qui a vu ça. Quand il est arrivé chez moi, il avait les pieds et mains craqués au sang, M. Arcan. C'était épouvantable. J'ai des images de ça, puis j'ai de la difficulté à concevoir que personne n'y ait vu à temps. Ce qu'on me disait, c'est on veut voir si la mère va s'en occuper. De toute évidence, elle n'en s'en occupe pas. Ça fait des mois qu'elle n'est pas allée le voir dans sa famille d'accueil.
C'est un enfant, c'est ça qui avait été. Il y avait eu un signalement. Oui. On avait sorti l'enfant du milieu familial.
Oui.
Et 4 mois, donc, en famille d'accueil avant d'arriver chez vous.
Exactement. Il y a eu des signalements, pas juste un, plusieurs. Je ne sais pas combien. Évidemment, les signalements sont confidentiels. Retiré de la maison pour insalubrité, manque de stimulation. Donc, évidemment, au début, on se demande, est-ce que cet enfant-là a des retards? Est-ce qu'il a le spectre de l'autisme? Qu'est-ce qu'il a? Parce que, bon, il a des retards de développement. Comment on peut l'aider? Et finalement, avec le temps, j'ai tout simplement réalisé qu'il manquait de stimulation au maximum. Donc, j'ai commencé à lui donner des cours de natation, à le faire jouer dehors, à lui donner des exercices de... évidemment, vous parliez ce matin là, des orthophonistes là, dans les écoles. Et c'est bien triste, effectivement, qu'on soit rendu là. Mais en même temps, c'est le cas de la DPJ. Quand on a un enfant qui a un problème de langage, on le met sur une liste d'attente. Puis c'est pas juste les enfants de la DPJ, c'est tous les enfants du Québec. Là, 2 ans d'attente à Sainte-Justine pour le test auditif avant de détecter c'est quoi le problème de l'enfant. Donc, par chance, moi, j'ai poussé, j'ai réussi à trouver une façon sur la Rive-Sud de faire ce test-là avant. Et je suis allée au privé parce que la DPJ n'a pas les ressources pour nous aider en tant que famille, pour aider au développement des enfants.
Quand vous avez décidé d'être famille d'accueil permanente, pourquoi vous l'avez fait?
Ouais, ben moi j'étais début quarantaine, je voulais toujours avoir des enfants, j'ai jamais rencontré le bon gars pour être papa. Puis je me suis dit ben je suis bien entourée, j'ai des bonnes ressources, j'ai une maison, je suis capable de recevoir un enfant, puis je veux avoir des enfants dans ma maison éventuellement. Donc qu'est-ce que je fais? Est-ce que je me fais inséminer ou j'évalue la possibilité de l'adoption? Et c'est quand je suis allée sur le web puis tout ça, pendant plusieurs mois là, j'ai fait des recherches, je me suis questionnée. Et là, quand j'ai vu qu'il y avait des besoins au niveau du Québec, j'ai décidé de changer le parcours d'un enfant qui avait mal commencé. Un peu comme vous dites, je me suis dit, on va le récupérer d'un endroit qui est un petit peu désuet et avec des parents qui ont peut-être des dépendances, qui ont peut-être eux-mêmes eu une enfance difficile, puis on va faire repartir ça. Puis ça a été mon challenge de me dire, moi, je vais être capable de transformer sa vie. Et évidemment, si vous le voyez aujourd'hui, là, c'est extraordinaire, l'évolution de cet enfant-là. Il parle même en français, pas en anglais. Il court, il fait du karaté, il fait de la natation. Il y a des problèmes de socialisation. Des problèmes de nourriture également, parce qu'il a manqué de nourriture. Ses parents n'avaient pas de frigo ni de poêle dans l'appartement où il habitait. Donc, quand il est arrivé chez moi, il se cachait de la nourriture dans sa bassinette. Imaginez quand tu vois ça, tu te dis, ben voyons donc, ça n'a pas de sens. Donc, il y a des défis alimentaires et quand je suis pas là, il mange pas. Donc, le lien d'attachement avec moi est très fort, mais il est à développer encore. Il est avec mon entourage, mais il va commencer l'école dans un an et demi, mais il faut que j'y voie, là. Je suis en intervention avec lui en psychothérapie, en psychoéducation, en orthophonie, en ergothérapie et je suis toujours, après 2 ans, sur les listes d'attente que la DPJ m'avait fait inscrite, là.
Pour avoir l'aide de spécialistes.
Exact.
Parlez-moi de la relation avec la mère biologique pendant les 2 ans, là, avant que vous puissiez faire l'adoption. Quel était son statut? Quel genre de contact elle avait avec l'enfant?
Bien, elle avait droit à des visites supervisées en centre jeunesse. Sur près d'une 20aine, elle s'est pas présentée à 10aine. Sauf que moi, je devais être disponible à chaque fois pour ça. Donc, je me suis rendue rapidement à une...
Pour les gens qui connaissent pas ça, là, comment ça se passe, une rencontre supervisée?
Bien, ça se passe qu'on a un rendez-vous fixe. On arrive avec l'enfant au centre jeunesse et on le laisse pendant 1h30 environ avec son parent biologique accompagné d'un travailleur social. Parce que si ça se fait en centre jeunesse, parce que ça doit être supervisé par des gens qui doivent voir si elle est adéquate durant la rencontre. Parce que veut pas, s'il a été retiré, c'est que cette personne-là n'était pas... en mesure de lui donner les soins adéquats. Donc, je le laissais là. Je vous dirais que la première fois que j'ai eu une rencontre, ça faisait 3-4 mois qu'il ne l'avait pas eu parce qu'évidemment, moi, j'ai demandé à ce qu'on ait une preuve qui a été traitée pour la gale, cette famille-là, pour éviter de la rattraper parce qu'évidemment, moi, je l'ai contractée dans les premiers jours en donnant de l'affection à mon enfant. Donc, moi, je voulais une preuve et c'était une journée de tempête. Puis, il y avait 300 jeunesses de mêlées dans mon histoire. C'était un peu complexe. Mais j'étais en train de sortir de ma voiture. Puis, eux, ils m'ont vu sortir. Puis, ils s'ennuyaient du petit. Ça faisait longtemps qu'ils l'avaient pas vu. Ils sont venus me l'arracher des bras. Mais imaginez, lui, ça fait 4 mois au moins qu'il a été trimballé dans une famille d'accueil temporaire. Là, moi, je m'occupe de lui. Ça commence à bien aller. Puis là, il vient de se réveiller d'une sieste. Puis, il y a ces deux personnes-là, la grand-mère et la mère, qui l'arrachent de mes bras. Et là, j'ai payé pour pendant des semaines parce que les répercussions après ça à la maison, c'est quelque chose. Là, l'enfant comprend pas pourquoi on lui fait vivre ça. Il est en train de l'apprendre à te faire confiance. Puis là, il dit, mais pourquoi tu me ramènes tout le temps avec ces gens-là qui m'ont maltraité, qui m'ont abandonné, qui... Donc, c'est très difficile.
Et c'est à quelle fréquence ces rencontres supervisées-là? Là, vous parliez d'une 20aine.
Oui, mais ça aurait pu être à chaque semaine si elle s'était pointée. C'est parce qu'elle ne s'est pas pointée. Je connais même des gens qui en ont 2 par semaine. Moi, à un certain moment, elle était en conflit avec sa mère, puis la grand-mère a insisté pour avoir des rencontres. Donc, il y a des semaines, j'ai eu 2 rencontres supervisées par semaine. Mais là, l'enfant arrive, puis il l'a vu 2 fois dans sa vie, là. Il connaît plus que sa propre famille biologique. Puis là, il fait comme, mais pourquoi je suis ici? Et la mère biologique a commencé à se poser des questions quand elle lui disait, Eh où maman? Puis lui, il se levait puis il me cherchait par la fenêtre. Puis là, elle s'est rendue compte que lui, son cheminement est en train de se faire d'attachement avec moi.
Moi, puis tous les cas sont évidemment uniques, là, mais j'ai vu des familles d'accueil avoir de bons liens avec la mère biologique ou le père biologique de l'enfant. J'ai vu des cas catastrophiques là, où ils serviraient en confrontation. Vous, ça a duré 2 ans, ces relations-là.
Oui, mais le plus dur, ça n'a pas été avec la mère biologique parce qu'elle était très absente, dans le sens qu'elle était en désintox, ça se présentait pas, ou quand elle se présentait, souvent elle était sur son téléphone pendant tout le long de la rencontre. Donc, elle nuisait elle-même à son dossier sans que j'ai vraiment besoin de rien faire. Mais moi, j'ai vécu du harcèlement de la part de la grand-mère, qui, au début, moi, je la prenais beaucoup en pitié. Elle me racontait son histoire, puis bon, son malheur de réalité de sa fille et tout ça. Puis je me suis dit, ben, je vais accepter de garder des liens avec elle à long terme parce que peut-être que pour le petit, ça va être important. Mais je vous jure, le monsieur Arcand, j'ai jeté mes téléphones à la maison. C'était, si je répondais pas, là, elle essayait de me joindre sur toutes mes lignes, de toutes les façons, parce qu'elle voulait m'expliquer, là, comment nettoyer mes jouets dans le bain pour que ça soit propre. Des genres de priorités comme ça, là. Et je me disais, ça n'a pas de sens. Elle voulait même s'imposer chez moi pour venir prendre des cafés. Elle m'a demandé d'aller manger au restaurant 1 fois par mois. Elle m'a dit que c'était la moindre des choses, que je lui devais bien ça. J'ai voulu partir en voyage avec le petit. J'ai eu l'autorisation de la mère. Ensuite, il y a eu un consentement à l'adoption. La DPJ m'a confirmé le droit d'amener le petit en voyage dans le sud. Et la grand-mère a essayé de tout faire pour stopper ça. Et là, je me suis dit, elle, là, j'en ai ras le pompon, c'est assez. Et là, vous parlez de la relation avec la mère. La mère, moi, m'a réécrit par après sur Facebook. Elle est venue espionner chez moi à quelques reprises. Et c'est ça que je trouve aberrant, parce que moi, je me sens pas en sécurité en tant que famille d'accueil avec cette personne-là qui est avec un conjoint qui était violent. Et je connais des gens qui ont des conjoints qui sont en prison, là, qui ont les adresses de famille d'accueil, qui ont les numéros de téléphone, parce qu'ils ont la garde parentale tant aussi longtemps
vous,
que l'adoption
n'est pas
faite.
Ce que vous dites, là, c'est que vous aviez peur que les parents biologiques ou leurs proches débarquent ouais. n'importe quand ouais. chez vous puis essaient peut-être de vous reprendre l'enfant ou...
Oui, ou viennent l'enlever parce que la fois que la mère s'est pointée, elle était avec une grosse camionnette puis j'ai été capable d'avoir la confirmation que c'était elle parce qu'elle avait mis son trajet sur son Facebook. Donc, je suis allée voir pour faire des validations. Mais la grand-mère a même menacé de venir s'imposer chez moi puis de venir m'espionner dans mes marchés locaux là, dans la ville où j'habite.
Est-ce que je comprends aussi que on pose aux familles d'accueil, des conditions très précises. Et c'est correct oui. là, pour s'assurer oui. que l'enfant soit...
Bien entouré là, okay. et en sécurité.
Mais probablement qu'il y a bien des parents qui ne respectent pas les conditions qui sont demandées par
exact.
La... Ils vous demandaient quoi?
D'aller prendre des cafés avec eux.
Non, mais je vous parle de la DPJ, les conditions fixées par la DPJ.
Regardez... Ils travaillent, ils font ce qu'ils peuvent avec les moyens qu'ils ont. Puis c'est ça que j'ai constaté, que probablement eux-mêmes, là, j'en ai une qui était aux abords du burn-out, puis c'est moi qui lui remontais le moral quand elle venait me voir chez moi. Puis l'autre, je sentais qu'elle se détachait pour pas virer folle elle-même dans ce manque de ressources-là. Donc, à un certain moment donné, tu te dis, ils nous demandent, moi, ils voulaient pratiquement que je reprenne la pilule anticonceptionnelle début quarantaine, là, pour pas que je tombe enceinte pendant que j'attendais un enfant. Je pense que j'avais assez bien maîtrisé mes grossesses jusqu'à ce moment-là. Je pense que c'est pas à moi qu'il fallait recommander ça. Et là, on se rend compte qu'ils exigent de nous plein de choses. Il a fallu que j'installe une clôture chez moi. Puis c'est vraiment précis. Puis eux, ils livrent pas la marchandise auprès des familles d'accueil. Et ils nous disent, on peut venir le rechercher n'importe quand. Et ne vous prenez surtout pas pour des mères Teresa. On vous rend service, on vous donne un enfant.
Est-ce
et vous êtes
qu'ils vous
payés
ont dit,
pour...
parce que moi, on m'a déjà raconté ça,
ouais.
faudrait pas trop s'attacher à l'enfant.
Ben c'est sûr, hein. Puis on dit, on te rappelle à chaque rencontre que la mère est encore elle a l'autorité parentale et j'ai vu le changement d'attitude à un certain moment quand ils ont fait le rapport justement pour l'évaluation du projet de vie de mon garçon et que là avec toutes les intervenants au dossier ils se sont bien rendus compte qu'ils allaient recommander au juge l'adoption. Là, j'ai senti un changement d'attitude de leur part envers moi. Mais sinon, je me sentais presque comme une criminelle, là. Je vous jure, moi, j'ai commencé à documenter mes choses à toutes les semaines. Le lundi, j'envoyais des rapports écrits sur la nourriture, l'attitude, etc., juste pour me blinder, puis pour voir les répercussions, puis suivre l'évolution de mon garçon. Puis, on me reprochait des fois, quand j'écrivais que je m'étais fait harceler par la grand-mère, on me disait, pourquoi t'écris ça dans le rapport? Si le juge voit ça, ça peut nous nuire.
En conclusion, comment ça va avec les parents biologiques? Là, ils sont sortis de votre vie, là?
La mère biologique m'a réécrit il y a 2 mois sur Facebook. Et moi, j'ai contacté le centre jeunesse qui a finalisé l'adoption pour savoir qu'est-ce que je devais faire. Et elle m'a confirmé que j'aurais leur appui si jamais il y a une autre intervention de sa part, qu'ils pouvaient la poursuivre parce qu'elle ne respecte pas la confidentialité de l'enfant.
OK. Puis la grand-mère, elle?
La grand-mère, ben je l'ai bloquée partout. Donc, jusqu'à maintenant, je touche à du bois, tout va bien.
Il n'y a pas eu de contact visuel, pas croisé, ils sont pas allés
non,
chez
mais
vous.
Je suis encore en train de m'en remettre, et tant mieux, parce que je vous dis, ça m'a vraiment affecté, ce sentiment-là que tu es chez toi, puis tu te sens harcelé comme ça. Là, je pensais jamais okay. que c'était si difficile.
Et le kid va comment?
Le kid a des défis, comme je vous dis, surtout pour socialiser ouais. avec les autres, mais c'est un petit être extraordinaire, il pousse à vue d'œil. Je l'aime comme si je l'avais accouché moi-même, puis ça, depuis le départ. Puis les gens nous voient ensemble, puis ils nous disent, ils te ressemblent tellement. Puis je trouve ça cute parce qu'ils savent pas l'histoire, puis je suis fière en même temps qu'ils me ressemblent tellement parce que ça démontre justement que le lien d'attachement est possible quand on n'a pas mis cet enfant-là au monde. Puis un enfant, quand on en prend soin, puis qu'on l'aligne, puis qu'on est en train de le développer pour devenir un bon individu, ben il est capable de le reconnaître. Il y a assez de jugement, je pense, pour ça.
Merci beaucoup d'être venu ce matin, Sophie.
Merci, M. Arcand.
On va passer à la tribune téléphonique telle que discutée, mentionnée tantôt. On va parler de cette étude de la Société canadienne d'hypothèque et de logement. C'est la banlieue ou c'est Montréal? Si vous aviez le choix, vous seriez où? Est-ce que c'est pensable pour une famille, 2 enfants, 3 enfants, de trouver une maison, un logement abordable à Montréal? Et en même temps, l'inverse, êtes-vous prêt à payer le prix, c'est-à-dire des heures de pointe complètement délirantes comme ce matin à Boucherville, là, près de la 20? C'est une heure et demie dans le trafic. Alors, est-ce que ça vaut la peine pour retourner en banlieue, évidemment, après le travail? Donc, beaucoup de temps perdu. 514-790-9850, 514-790-9850. La ville ou la banlieue, quand on a une famille, qu'est-ce qu'on fait? On quitte Montréal, on vient à Montréal, on trouve à Montréal, on attend vos appels.